On prend la page 133. On venait dans notre dernier cours, je pense. Peut-être avant-dernier, je ne sais pas, ça va dépendre. Mais je pense dernier cours sur le chapitre 36. Dans le chapitre 36, à la fin du chapitre 36, on explique quelque chose de très important. On explique que ce qu'on attend à Mashiach, ce qu'on attend dans l'avènement messianique, en vérité, a déjà eu lieu une première fois. Tout ce qu'on attend, ça a déjà eu lieu une première fois. Déjà, il faut comprendre pourquoi on est là sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ici? Ici, on est là sur Terre pour construire une demeure, une maison pour Hachem. Ça veut dire que c'est pas que Dieu il est en haut et nous on est en bas, ici on fait ce qu'on veut et un jour on rend des comptes en haut. C'est pas comme ça que ça se passe. Kadosh Baruch Hu, on a dit plusieurs fois dans le cours la semaine dernière, le cours la semaine d'avant, il est présent partout, en haut, en bas, partout. Et qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Quel est son plaisir? Son plaisir, c'est lorsqu'il voit qu'on va lui construire une maison en bas. Que des malachim le servent, c'est pas nouveau. C'est normal qu'ils le servent. Que les anges le servent, c'est normal. C'est pas un challenge pour eux. Mais qu'un homme serve à Kadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est une grande nouveauté. On a expliqué longuement toutes ces notions-là. Et on a expliqué après, c'est là, ça je ne reviendrai pas dessus parce que peut-être qu'il n'était pas là, etc. De toute façon, on va passer à un autre sujet. On explique que le but ultime de ce monde, c'est quoi? C'est Mashiach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y aura Mashiach? Beaucoup de gens posent la question. Donc, ce cours, on va le dédier, Bezrat Hashem, à Mashiach.
Ah.
Beaucoup de gens posent la question. Qu'est-ce qui va changer dans notre monde quand il y aura Mashiach? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Tu me dis, d'accord. Dieu, il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Bonsoir.
On parlait de Mashiach.
Dieu, il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde afin qu'on le construise une maison ici-bas, une demeure. Que même dans un endroit dans lequel il est impopulaire, même là, on va quand même le couronner en tant que roi. D'accord, pas de problème. Mais quel est le but de tout ça? Ça, c'est, on a compris d'où ça va, mais quel est le but? Où on va avec tout ça? Quel est le but? Quel est l'objectif?
Pardon.
L'objectif, c'est Mashiach. C'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est une période, un moment, dans lequel le réflexe naturel sera de comprendre les choses telles que Dieu veut qu'on les comprenne.
C'est le bénéfice.
Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça, il faut bien le dire clairement, on n'est pas du tout dedans maintenant. Maintenant, lorsqu'on présente une situation, mon premier réflexe, c'est de réfléchir à la situation avec mon cerveau, et avec mes intérêts, et avec mon ego. C'est la vérité. L'être humain est comme ça. Tu me présentes une situation, tu me dis, voilà, vas-y, ça, 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 qu'est-ce que tu veux faire? Donc, quand je commence à réfléchir, naturellement, instinctivement, avec quoi je réfléchis? Avec mon ego. Je veux voir qu'est-ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce qui m'intéresse le moins. Qu'est-ce que je fais maintenant quand je fais la Torah? La Torah te dit non. La Torah te dit, il faut pas voir ce que toi tu veux, il faut voir ce que Dieu veut. Mais est-ce que c'est mon réflexe naturel, ça?
Non.
Pas du tout. Ben, imaginez que lorsque ma chair va venir, tellement sera raffinée, que notre réflexe naturel sera directement de penser qu'est-ce que Dieu veut. Un petit peu comme les tzadikim. Les tzadikim, ils sont déjà comme ça. Ça, on dit que pour les tzadikim, c'est comme si ma chair était déjà là. Un tzaddik, lorsqu'il y a une problématique qui est posée devant lui, il ne se dit pas qu'est-ce que j'en pense. Il se dit qu'est-ce que Dieu en pense. C'est automatique. Nous, on n'est pas comme ça. Mais il faut savoir que lorsque Mashiach viendra, on sera aussi comme ça. Et on a déjà été comme ça une fois. Quand on a été comme ça
hein? Au
don de la Torah. Parce qu'on a, avec ça, on a terminé le cours la semaine dernière. Lorsque Dieu a donné la Torah, au moment du don de la Torah, bonsoir, au moment du don de la Torah, on ne voyait pas du tout la matière. On voyait la divinité qu'il y avait dans la matière. Je vous ai expliqué la semaine dernière l'exemple avec voir les voies et hein, on a expliqué ça. On a dit que au don de la Torah, on voyait les sons et on entendait les images. C'est impossible normalement. Ça veut dire quoi voir un son et entendre une image? Ça veut dire qu'on était au-delà de l'aspect matériel des choses. On était au-delà. On était dans l'aspect spirituel des choses. Et c'est comme ça qu'on sera lorsque ma chair va venir. Lorsque ma chair va venir, on sera au-delà de l'aspect matériel, on sera dans l'aspect spirituel. Je vous donne un exemple concret, voilà. Là, je reviens, là, je suis venu un petit peu en retard, donc je reviens, donc enfin, bon, on a annoncé, mais je reviens de Shiva, j'étais chez quelqu'un. Bon, voilà, et quelqu'un, il est parti chez HM. Bon, qu'est-ce qu'on dit, une situation comme ça? On dit, bon, tu comprends, il est chez HM, il continue à prier pour nous, et en vérité, il est toujours là, il continue à penser à nous, etc. Bon, bien sûr, c'est vrai, on le dit, ça, mais est-ce qu'on le sent, ça? Est-ce qu'on le sent? Est-ce que ça se prouve, ça? Non, c'est une croyance. C'est-à-dire, moi, c'est quelque chose qui est une croyance, mais dans le concret, dans le tachlès, c'est très, pourquoi c'est très douloureux? Parce que c'est parce qu'on ne le voit pas. Dans les yeux, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? On voit qu'il y a une personne qui n'est plus là. Donc c'est très douloureux. Maintenant, c'est vrai qu'au fond de nous, on sait que, en vérité, il est toujours là, en vérité, etc., etc. Mais concrètement.
On sait pas.
Non. Au fond de nous, on a la foi. On a la foi.
On le sent.
On a la foi. On sent, oui ou non. En tout cas, on a la foi. Mais ça change pas que pourquoi on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce qu'on est dans un monde dans lequel on réfléchit pas spirituellement, on réfléchit matériellement. Alors, on essaye de se convaincre spirituellement aussi pour essayer d'avancer, et c'est ce qui est très très bien. Mais dites-vous que lorsque ma chère viendra, on réfléchira d'abord spirituellement et après matériellement. C'est ce qui est extraordinaire. Je vous donne un exemple pour illustrer ça. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que pour nous, si je dis, il y a une table devant moi, Chélie, je te crois. Si tu me dis maintenant, oui, mais tu sais, dans cette table, il y a une lumière, il y a une énergie divine, là, je dis, bon, ça, c'est nouveau. Ça, je connais pas. Maintenant, dites-vous que dans le monde, dans le Olam Haba, dans le monde futur, c'est exactement le contraire. Quand on monte à quelqu'un une table, on le dit, tu sais, il y a une lumière devant toi, il dit, oui, bien sûr, je le vois. Il dit, mais tu sais, en vérité, cette table, d'un certain angle, en vérité, c'est quelque chose de matériel, on peut le toucher, etc. Il dit, ah bon? Je savais pas.
Alors, il voit la lumière, mais pas la table.
Non, et ça veut dire, il faut qu'il croit et comprend qu'en bas, sur Terre, il y a des gens que quand ils voient ça, ils touchent une table. Ah, il dit, ah bon? Ok, d'accord. C'est étonnant.
Oui, ceci étant, on peut regarder aujourd'hui le microscope électronique
d'un matière,
vous voyez la...
Tout est dans la tête.
Oui, mais tu vas voir le...
Mais je vais vous dire, je vais vous raconter une blague.
Tu vois un atome, tu vois un électron, tu vois des électrons.
Oui, bah oui, exactement, 100%.
Bah déjà, moi, des choses qui gravitent autour d'un électron, déjà, ça me dépasse un peu.
Nous, déjà, ça nous dépasse. Imagine, on parle du spirituel. Bon, après, je vais vous donner un autre exemple. Ce que je vais vous montrer par ici, c'est que ça dépend où j'ai la tête. Ça dépend dans quoi j'ai la tête. T'as la tête dans les bêtises, tu verras des bêtises partout. T'as la tête dans les mitzvot, tu verras des mitzvot partout. T'as la tête dans le spirituel, tu verras tout en spirituel. T'as la tête dans le matériel, tu verras tout dans le matériel. C'est la même réalité. Seulement, ça dépend comment tu vas le regarder.
Seulement dans la vie, tu as besoin.
Alors, attendez, justement, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc, on a expliqué la chose suivante. On a dit que lorsque Dieu nous a donné la Torah, on a vécu pendant quelques instants cette vision. La vision de voir le spirituel directement, que le spirituel est une réalité. Et que le matériel est une histoire. Le matériel est une foi, est une croyance. On a vécu ça. Le problème, c'est que notre corps n'était pas conçu pour ça. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Notre corps ne tenait pas. C'était trop puissant. C'était trop puissant pour notre corps. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec notre corps? Comme c'est trop puissant, qu'est-ce qui s'est passé?
On est mort.
Il a explosé. C'est un survoltage. Survoltage, il explose. Il n'a pas tenu, il a explosé. Maintenant, quel est notre travail dans ce monde-ci? Et là, on va continuer avec Mashiach. Notre travail dans ce monde-ci, c'est quoi? C'est d'essayer de nous préparer, de nous immuniser, de mettre la crème, hein, vous rappelez, la protection 50, il a dit David. De mettre la crème avec toutes les Torah que tu dis. Comme ça, le jour J, lorsque Dieu aura décidé enfin d'amener Mashiach, on sera immunisé, et là, on va tenir. Alors là, ceux qui n'ont pas mis la crème, ils vont exploser. Ceux qui ont mis la crème, ils vont tenir. Ok? Maintenant. Qu'est-ce qui se passe lorsque Mashiach arrive? Lorsque Mashiach arrive, il y a deux phases. Deux phases. Première phase, c'est la résurrection des morts. Alors attention, dans la première phase, c'est pas la résurrection de tous les morts.
C'est ça, il y a plusieurs phases.
C'est la résurrection seulement des tzadikim. Ah bon. Ça veut dire qu'imaginez que Mashiach arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà, imaginez, on est aujourd'hui le 15 Elul, ce soir le 16. Ce soir le 17. 17 Elul. Imaginez que Mashiach arrive now. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Première chose, d'abord, nous tous, déjà pour nous, Mashiach est là. C'est-à-dire qu'on va au Beth Amikdash, on va tous construire le Beth Amikdash. Tous les avions, peu importe où ils sont dans le monde, ils vont tous vers Israël. Bon, voilà. Aller-retour.
D'accord?
Maintenant, tout est réquisitionné, monsieur.
Alors,
tout est réquisitionné. C'est offert par le patron. D'accord? Et, donc, on construit le Beth Amikdash, on y va, on se purifie, parce qu'on est tous impurs dans la pureté du mort, on va tous se purifier, on est là, on se prépare, il y a des cours express pour essayer de voir, voilà, comment rentrer, comment faire, on peut rentrer, on a des Kohanim qui vont prendre le service.
D'accord? Est-ce qu'il y a des...
Attendez. À ce moment-là, il y a seulement les tzadikim qui sortent. des tombes.
D'accord, mais les vivants ici, il y a des vivants.
Bien sûr, nous, on est là. Ceux qui sont là, ils restent vivants.
Il faut bien quelqu'un.
Ils sont pas morts, ils restent vivants.
Bien sûr, on est là. Ça, c'est la première phase. Une phase qui va durer, selon les avis, ça peut durer 5 ans, 20 ans. La majorité des avis s'accordent de dire que ça va durer 40 ans. Cette première phase, donc c'est une phase, on va dire, intermédiaire. C'est une phase dans laquelle on va continuer à vivre comme maintenant. Ça veut dire qu'on va continuer, à travailler. Si, on devient immortel. On devient immortel, mais on continue comme maintenant. Ça veut dire que on continue à travailler, on continue tout comme maintenant. Sauf que, on n'a plus Yetzarara, on n'a plus envie de faire des bêtises. D'accord? On a le Beth Amikdash, mais on continue à évoluer dans la vie active comme on le fait, sans aucun problème.
Ceux qui sont en Australie, ils sont où?
Ils viennent. Je vais vous dire, monsieur Benita, lorsque Mashiach va venir, Jérusalem va devenir la terre d'Israël. Et le monde entier va devenir la terre d'Israël. Voilà.
Donc c'est l'abolition de l'histoire.
Donc vous voulez rester au ma douce France, restez dans la douce France.
Je
serai quand même en Israël.
Qu'est-ce qui va changer pour les Goïms pendant ces 40 ans?
La crise de la vie.
Ils vont devenir juifs.
Hein?
Ils vont pas devenir juifs. Est-ce qu'il y en a qui vont se convertir par contre?
Mais pas besoin qu'ils s'en convertissent.
Ça y est, ils deviennent juifs.
Ils sont à notre service.
Non, mais il y en a qui vont avoir envie de se convertir en
peut-être,
disant...
Peut-être,
ils ont des
conversions. Ça restera à ma chère à régler ça. Il y aura forcément beaucoup de dossiers à régler, beaucoup de problèmes, de beaucoup de cas que ma chère doit régler. Donc là, je suis en train de dire, première étape, on a que les tzedikim. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans une phase de transition.
Qu'est-ce qu'on appelle tzedikim?
Les tzedikim, c'est le tzedikim.
Moi, je fais cette question, m'a dit, parce qu'il y a sûrement des gens... Parce qu'il t'a demandé, c'est pas la question.
La question, c'est quoi? Alors, d'ailleurs, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, on aime beaucoup, dans le peuple juif, on aime beaucoup être enterré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on dit que tous les corps, ils vont sortir par la terre d'Israël. Enfin, c'est par la terre, par le petit Israël, par la terre d'Israël, quoi. Et donc, même s'il y a un corps qui se trouve à Paris, il va devoir passer par les souterrains pour aller jusqu'en Israël, et c'est d'Israël qui sort. Et c'est une grande souffrance.
C'est bien.
Oh, voilà, on voit bien. Voilà.
C'était sympa.
On croyait qu'il y a un corps qui sortait là-bas.
Je croyais que c'était le jus d'orange qui sortait.
Ouais, moi aussi. Je
croyais que c'était le jus d'orange.
Ça m'a perturbé.
Alors, je suis en train de dire, donc, c'est une grande souffrance pour les corps. C'est une grande souffrance pour le corps de devoir passer par les souterrains. Mais d'un autre côté, on a eu beaucoup de tzadikim, mais pas que les tzadikim, qui ont été enterrés à côté de leurs enfants, à côté de leurs fidèles, à côté de leurs élèves, etc. Parce qu'ils voulaient être au plus proche de leurs élèves. Comme ça, quand il y a un problème, ils peuvent prier, etc. Donc bon, l'un dans l'autre, ça se discute. Donc c'est la grande question. Est-ce que c'est mieux d'enterrer un proche en Israël? Comme ça, le jour J, il pourrait sortir facilement, mais nous, on sera loin de lui, concrètement, on le verra jamais, quoi. Bon, une fois par an maximum, c'est la réalité. Ou bien, c'est mieux qu'il soit à côté, qu'on puisse le voir quand on veut. Donc c'est une grande question qui n'est pas simple.
Mais la semaine dernière, vous avez...
Oui, par exemple, le rabbi, il est enterré en dehors d'Israël. Parce que voilà, comme la majorité de ses chassidim sont en dehors d'Israël, donc, il l'a pas dit clairement, mais en tout cas...
C'est pour la proximité.
En fait, c'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'est pas enterré en Israël. Pourquoi il n'est pas enterré en Israël? Parce que où est son peuple? Le peuple, la génération qui l'accompagnait, ils sont dans le désert. Ils sont tous enterrés dans le désert. Donc lui, il reste avec sa génération.
Est-ce qu'il a été enterré?
Je sais pas.
Est-ce qu'il a?
Il a été enterré.
Oui. Il est enterré. Sur le monde des voix, c'est écrit. On ne sait pas où il est enterré, mais ça veut dire, on ne peut pas retrouver où il est enterré, mais on sait quel endroit c'est. Enfin, on le sait, c'est écrit. Ouais. C'est écrit.
On sait. La semaine dernière, vous avez expliqué que les morts, leur neshama, elles montent au ciel,
oui,
et après les réincarner dans
ça, etc. C'est s'ils meurent avant que Mashiach arrive. Mais s'ils meurent une fois que Mashiach est déjà là, il n'y a pas besoin de passer par là.
Non, mais tout
ça, on dit qu'il y aura peut-être, il y a certains avis qui disent que même les corps qui sont là, ils vont passer par une micro-mort. Comme ça, eux aussi, ils auront le mérite de la résurrection des morts. Mais concrètement, ils vont rester là.
Les vivants.
Il y en a un avis qui dit que même les vivants, pour avoir le mérite de la résurrection des morts, ils vont passer par une micro-mort et tout de suite ils vont se réveiller.
Mais c'est ça, les tzadikim là dont vous parlez.
Oui.
Ils sont morts avant ma chère.
Oui, bien sûr.
Alors leur âme, leur neshama, elle n'est plus là. Elle a peut-être été réincarnée chez quelqu'un d'autre.
Peut-être, oui.
Alors comment il va se réveiller sans sa neshama?
Ah, ça, là on rentre dans un gros dossier. Ça, je rentre pas dedans, ça. C'est l'histoire des incarnations. Parce que je vous explique le problème. Je vais aller un peu plus loin, M. Benita. Je vais aller plus loin que vous, là. Regardez. Imaginez que, il y a 500 ans, M. A était marié avec Mme B. Bon, entre-temps, les deux, ils sont partis, ils sont décédés. Et les deux sont repartis réincarnés. Pas forcément en couple. Ils sont un, il est parti, l'autre, il est parti là. D'accord ? Avec qui on revient quand ma chère arrive ? Donc tu vas reprendre une femme, mais laquelle tu prends?
Ah oui,
celle du Gilgul. Ah.
Normalement, on doit reconnaître son...
C'est compliqué.
On doit reconnaître sa femme, on doit reconnaître son fils.
Oh, mais il y en a plusieurs, il y a plusieurs...
Il y a une échama, plusieurs corps.
Ah, bah oui, il y a plusieurs corps pour la échama. Comment ça se passe?
Chacun reconnaîtra sa veuve.
Mais il y a plusieurs veuves.
C'est
ça le problème.
Il y a
c'est qu'il y a la même Neshama qui est descendue plusieurs fois. Non, nous on est là, on est vivant, on reste vivant.
Mais moi, je ne me détermine pas en fonction d'une Neshama. Je me détermine en fonction du corps, de l'aspect physique.
Ah non, ben non, c'est ça l'erreur.
Mais comment je vais reconnaître mon père? C'est d'après l'aspect physique, pas d'après son Neshama.
Comment vous savez de quoi il aura l'air?
Ah ben alors s'il n'a pas l'air de la photo...
Monsieur Benita, votre père, avant de partir, excusez-moi d'être un peu...
Oui.
D'accord. Il était en bonne santé ou pas?
Oui, plus ou moins, oui.
D'accord, mais il était en bonne santé?
Oui.
C'est-à-dire, vous voulez qu'il ressuscite et qu'il soit exactement comme il était quand il était vieux?
Ben, normalement, je dois retrouver la photo que j'ai égarée.
Oui, mais attendez, mais...
J'ai perdu.
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, il ressemblera. Mais qu'est-ce qu'on va gagner s'il va ressusciter? Mais qui reste malade comme il était quand il est parti. Parce que s'il est parti, c'est qu'il était malade.
Oui.
D'accord.
D'accord.
Donc il faut qu'il ressuscite à un état antérieur. On est bien d'accord.
D'accord. D'accord.
Bon.
D'accord.
Donc ça sera un Benita. Il aura le look d'un Benita.
Je
vous rassure.
Je suis sûr qu'il veut ses 20 ans.
Mais c'est pas ça.
Il veut ses 20 ans. Il veut pas
l'espérer. C'est qu'il faut m'identifier à lui. Si je peux pas m'identifier à lui, j'ai aucun intérêt. Je veux pas voir le voisin. Moi, ça m'intéresse pas.
Oui, ne vous inquiétez pas. Ça c'est. Ça fait partie.
Vous pouvez le voir quand il était jeune. Et que vous étiez
à mon avis, le plus inquiétant, comme il dit Monsieur Mimi, c'est pas du tout ça. Le plus inquiétant, c'est qu'on aura un choc de génération.
Voilà, c'est ça. On va le retrouver quand il arrive. On va se retrouver.
Ils ont fait un film avec dans lequel ils ont voulu. C'est très compliqué quand on fait un film. Ils ont essayé de montrer la résurrection des morts. Donc ils ont fait un cimetière et tu vois un moment les temps qui sortent comme ça.
Oh, c'est Thriller de Michael.
Et tu vois. Non, sérieusement. Et tu vois. Et tu vois le grand-père qui sort, tu vois. Il sort au début en titubant, après il commence à bien marcher. Et il a son petit-fils, son arrière-petit-fils qui est à côté de lui. Et il a une tablette dans la main. Et le grand-père, il prend comme ça. Il essaie de tourner la poche.
Ah, parce qu'il a gardé.
Il a gardé. Et il voit, ça ne tourne pas. Il te regarde, il dit, c'est quoi ça?
Il en est resté là, lui.
Ah oui?
Là, grand-père, il en est resté là.
La batterie n'explose pas.
Lui, il sait même pas ce qui existe aujourd'hui.
C'est pas un Santo, ça n'a
pas. Oui.
Ce n'est pas forcément un
iPhone. Vous prenez quelqu'un d'il y a 100 ans, vous le mettez dans la génération d'aujourd'hui, il est complètement largué.
Il devient fou.
Il devient fou. Tu le mets dans le passé, il est complètement largué.
Oui, complètement.
Ça commence à exister.
Non, bon,
2016,
en tout cas,
il pas d'avion.
Non, il est sûr que tu as une adaptation.
Alors, donc je reprends. Donc la résurrection des morts. La résurrection, c'est des questions, ça, c'est des questions. On n'a pas, je vous ai expliqué. Maïmonide dit, on n'a pas de réponse à ces questions.
Il n'y a pas de questions, bien sûr.
On n'a pas de réponse à ces questions. Et même les réponses sont écrites dans la Gemara. On ne sait pas ce qu'il faut comprendre au niveau allégorique et qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau littéral. On ne sait pas. Mais Maïmonide, il dit quelque chose de très clair. Il dit, tant que c'est pas arrivé, on sait pas comment ça se passait.
Ça reste après.
Mais, voilà, on a quand même les grandes lignes. On a les grandes lignes. Par contre, s'il y a une personne, Maïmonide, il dit, par exemple, la résurrection des morts, ça c'est sans équivoque. Comment ça va se passer exactement? On a des suppositions, mais c'est sûr que ça va se passer. À tel point que celui qui dit, je ne crois pas en la résurrection des morts, on dit que c'est comme si qu'il renie toute la Torah. Ça, c'est parce qu'on croit à la résurrection de mort. Ça, c'est...
Il va pas...
Après, il y a les détails.
Non, mais on peut parler de démarches liées à la Neshama.
Oui.
Après qu'il y ait eu plusieurs vies pour cette Neshama.
Ah, ça, je ne vais pas vouloir rentrer dedans. C'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué.
C'est pas ma façon.
Ok.
Tu as beaucoup de frères et sœurs.
Bien sûr, et alors naturellement. Monsieur Benita, excusez-moi d'être un petit peu cru. quand on se rappelle d'un proche.
Imagine 15 vies qui débarquent.
Quand on se rappelle d'un proche. Voilà, on se rappelle par exemple, je vais me rappeler de mon grand-père, on va se rappeler du rabbi, etc. Je vais pas me rappeler dans ma tête les dernières images que j'avais de lui. J'ai pas envie de me rappeler des dernières images. Parce que les dernières images, elles sont pas belles. Je vais essayer de me rappeler des images un an avant, deux ans avant. Vous comprenez? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on reste avec les dernières images, on a envie de l'oublier. Donc, du coup, on le repousse. On dit, mais c'est pas les dernières images qu'il faut garder. Les dernières images, c'est quand ça allait mal. Il faut essayer de remonter un petit peu avant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, on reprend. Je reprends un petit peu sur à l'oral. Après, on va faire sur le texte. Donc, on reprend. Ma chère arrive. Now. D'accord? Ma chère arrive. Il est là. Voilà, ça y est, c'est d'accord. Il est là.
Il est accompagné.
Il est derrière notre porte. Il est derrière nos murs, comme c'est écrit. Il arrive. Donc, résurrection des morts de Tzadikim. 40 ans plus tard, résurrection de tous les morts. Tous les autres morts. Tous les autres morts vont ressusciter à ce moment-là.
Juifs.
Et à ce moment-là, c'est là qu'on a la vraie demeure pour Akadosh Baruch Hu. La vraie demeure pour Akadosh Baruch Hu, ça se passe ici. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a certains penseurs juifs qui pensent que la finalité de ce monde, c'est qu'à un moment, on va quitter les corps et qu'il n'y aura plus de corps. Mais Nachmanide et la majorité des penseurs juifs pensent comme ça aujourd'hui, comme le Maharal de Prague, etc. Ils disent non. La finalité de ce monde sera dans un corps. C'est-à-dire qu'on restera sur Terre. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas ce qu'on expliquait au début du chapitre. Que quel est l'objectif? Pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu l'a créé tout, pas selon le monde? Pourquoi Dieu l'a créé tout le système? Tout le système, le monde futur, et le Olam Haba, et le Gan Eden, et les anges. Pourquoi il a créé tout ça? Pour créer une demeure ici-bas. C'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et même lorsque ma chère va venir, c'est ici que ça se passe. Ça veut dire que dès le départ, le monde a été créé, ça veut dire Dieu est un visionnaire, évidemment. Ça veut dire qu'un visionnaire, c'est une personne qui, quand il lance le produit, avant que le produit ait évolué, il voit déjà comment le produit va évoluer.
À qui va le vendre?
Même iPhone, ils ne sont pas capables de faire ça.
Ok. Donc Dieu, lorsqu'il crée le monde, qu'est-ce qu'il a prévu dans son produit? Il a prévu comment le produit va évoluer et vers où il veut l'amener. Alors ça prend du temps parce qu'on a libre arbitre. Vers où il veut l'amener? Il veut l'amener à une situation dans laquelle Bayom haou yi Hashem echad ushmo echad. Ça veut dire une situation dans laquelle, dans ce monde-ci, on diffuse le bien autour de nous. Et ne croyez pas qu'on est loin de ça. On n'est pas si loin de ça. Le rabbi il a dit plusieurs fois. Il suffit d'ouvrir les yeux. Quand on ouvre les yeux, on voit que Mashiach approche. Je vous donne un exemple. Rabbi, par exemple, je donne les derniers enseignements, mais on peut trouver beaucoup d'enseignements modernes aujourd'hui. Vous savez, dans la génération d'avant, je remonte à pas plus tard d'il y a un siècle d'aujourd'hui, chaque fois qu'il y avait un retournement de régime, un renversement de régime, ça se comptait à chaque fois par centaines de milliers ou des millions de morts. On le sait dans l'histoire du monde. Chaque fois qu'il y a eu un retournement, un renversement de régime, c'est des millions de morts. Et avec ça, ils n'avaient pas les armes massives comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une petite arme, on peut tuer beaucoup de monde. Ils n'avaient pas ça à l'époque. Et avec ça, pourtant, chaque fois qu'il y avait une guerre, c'était des millions de morts. Prenez ce qui s'est passé maintenant, prenez ce qui s'est passé à la fin des années 80 et début des années 90. L'effondrement du communisme. Bon, c'est pas à des gens je suis un petit peu plus jeune, mais c'est pas à des gens qui sont un peu plus âgés que moi que je vais expliquer ce que c'est le communisme. Le communisme était, le bloc communiste était extrêmement puissant.
C'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
Mais c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que c'était pas, ça couvrait des dizaines de pays. C'était très, très, très puissant.
On a rien en référence.
D'accord? Alors, vous imaginez que pour que, normalement, alors à l'époque c'était un pays contre un autre, c'est même pas un régime. Et un pays contre un autre, c'est des catastrophes. Maintenant, lorsque le régime communiste s'est effondré, à la fin des années 80, alors que quelques années avant, il était ultra puissant. Ça veut dire que même pour sortir du RSS, il fallait des permissions et celui qui le demandait, il perdait son travail. Je connais des gens, j'ai rencontré des gens comme ça.
Même pour changer de
comment, et regardez, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin des années 80, il y a eu un président qui est venu et qui, et ça y est, il a effondré. Le mur de Berlin, il y a aussi le mur de Berlin, le rideau de fer, s'est effondré. Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu une effigie de sang? Il n'y a pas eu de mort. Ça, déjà, le rabbi dit, mais regardez, ouvrez vos yeux, regardez à quel point ma chère arrive. C'est-à-dire que là, on a un début, en tout cas, de la concrétisation de la prophétie qui dit que, Vechitetu Harvotam Leitim, ils vont transformer leurs épées en socs de charrue. Ça veut dire quoi, transformer les épées en socs de charrue? Ça veut dire que les budgets qu'on mettait avant dans la guerre, et ça, vous pouvez le voir progressivement, plus on va dans, la tendance est dans le monde comme ça, plus on avance dans le monde, et plus on enlève des budgets de l'armée, les budgets militaires, pour les mettre dans l'économie. Alors bien sûr que maintenant on a le terrorisme avec les Arabes, ça n'arrange pas les choses. D'accord ? Non, je veux bien. Mashiach n'est pas là. J'ai pas dit que Mashiach n'est pas là. Mais il faut bien comprendre que la tendance dans le monde va en s'améliorant. Vous savez, les chrétiens, on a beaucoup souffert des chrétiens. On a énormément souffert des chrétiens. Les croisades, etc. C'est les chrétiens, ça. La Shoah, c'est d'où ça vient, ça. Ça, c'est les pays chrétiens, ça. On est d'accord ? C'est les pays chrétiens. Ça, c'est le christianisme. Aujourd'hui, concrètement, quel mal nous fait le christianisme ? Aux juifs.
Rien.
Aucun. Non seulement qu'il nous fait pas mal, il nous protège. Mmh. Alors après, peu importe par intérêt ou pas par intérêt, mais dans les faits, ce que je sais, c'est que s'il y a 75 ans, les soldats venaient pour nous chercher, pour nous amener dans les chambres à gaz, aujourd'hui, ils sont là pour nous protéger. Mmh. Les soldats du même pays.
Ça c'est depuis Vatican II.
Non, mais attendez, mais là, je vois un changement, là, parce que c'est un changement radical, ça. Parce que vous prenez 1000 ans d'histoire, quel 1000 ans ? 2000 ans d'histoire, 2000 ans d'histoire du christianisme, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu une situation comme ça. Ça, il n'y a jamais eu ça. Donc, vous voyez que progressivement, on va vers un changement. Le monde change positivement. Alors, c'est vrai que quand le monde change positivement, il y a des éléments négatifs qui arrivent, il y a des choses pas bien qui arrivent, effectivement, on sait la conjoncture actuelle. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans une situation où le monde est en train d'évoluer vers le bien. C'est la réalité. Regardez, quand on dit par exemple que lorsque Mashiach arrive, il n'y aura plus de morts. Il y a, vous prenez il y a un siècle, d'accord, l'espérance de vie d'une personne était à combien ? 45 ans ? 50 ans le bout du monde ? L'espérance de vie, ça correspond à l'âge moyen que les gens vivaient parce qu'il y avait des maladies qui étaient incurables. Aujourd'hui, quelle est l'espérance de vie moyenne ? Prendre un grand problème avec le chômage aujourd'hui. Prendre un grand problème avec le chômage. Avec le retraite. Pardon. Prendre un grand problème. Parce que les gens ne meurent plus. Mais c'est ça le problème. Mais parce que les gens ne meurent plus. Mais ils meurent plus les gens. C'est-à-dire on veut mettre le même âge de retraite et les gens ne meurent pas. Donc on ne peut pas. Comment tu veux payer 20 ans, 30 ans de retraite alors que le bonhomme est encore vivant et qu'en 30 ans derrière, les autres ils arrivent à 60, 65 ans en plus de retraite anticipée. Mais c'est un signe qui est extrêmement.
Il commence à travailler à 30 ans.
Mais ça, c'est un signe qui est extrêmement positif. Vous comprenez ? Mais ça, c'est un signe qui est extrêmement positif. Ça montre que le monde est en train de changer. Et pour le bien. Le monde change pour le bien. Si l'espérance de vie des gens est beaucoup plus longue, dure beaucoup plus longtemps, ça veut dire que le monde est en train de changer. On voit clairement comment Kadosh Baruch Hu il amène la guérison dans le monde.
Si l'espérance de vie est plus longue mais que les gens souffrent plus, ça n'a pas grand intérêt.
Qu'est-ce que vous en savez qui souffre plus aujourd'hui qu'avant ?
On voit bien, il y a quand même beaucoup plus de misère et les vieux ils prennent.
Non. Je vous dis honnêtement, on a des problèmes de riches aujourd'hui.
En matière de santé.
On est très 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 loin de ce qu'il y avait, de ce qui percevait il y a un siècle.
Même aux années 50, qui est proche, quoi, tu vois. Mais ça a évolué terriblement, mais c'est la folie. C'est-à-dire qu'il y a moins de maladies, moins de morts, moins de machin, les gens qui sont morts en 1950 se réveilleraient aujourd'hui, mais ils verraient un monde.
Regardez, il y a des millions, à l'époque, je donne des exemples, parce que je pense que c'est important de parler de ça. À l'époque, jusqu'à il n'y a pas plus d'un siècle, il y avait des millions de personnes qui mouraient chaque année de faim.
Pas de faim.
Ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, il faut le savoir.
Dans certains pays. Hein.
Non, c'est fini ça.
En France, même.
On parle de France.
Non, mais je parle même. Dans le monde entier. Mais attendez. Même en Afrique, il y a de plus en plus de budgets qui sont donnés par les pays pour financer ça. Mais où on a vu ça ? Est-ce que vous croyez qu'il y a un siècle, on aurait eu un pays qui prend des milliards de son argent, de son PIB, et qui les donne à un autre pays qui ne connaît pas ? Qui a aucun intérêt là-bas.
Des fois, un intérêt aussi.
D'accord. Non, il n'y a pas toujours un intérêt. Ouais. Il ne faut pas voir que le mal. Non, je suis sérieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments positifs dans notre vie, dans notre réalité. Alors, bien sûr qu'il y a des éléments négatifs qui peuvent tout gâcher. Mais il y a beaucoup d'éléments. On avance vers un but positif. C'est clair qu'on avance vers un but positif. Alors, bien sûr qu'après, il y a des régimes totalitaires qui vont prendre ces argents, qui vont prendre cet argent, et il y a des dictateurs qui vont prendre ça. Ma chère, t'es pas encore là. Mais, on avance. Aujourd'hui, mourir de faim, c'est plus compliqué qu'avant. C'est la réalité. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer par ici, c'est que... Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui, parce que la semaine dernière, j'ai vu que plusieurs n'arrivaient pas à comprendre. Quand on parlait de l'époque de Mashiach, le rabbi nous dit, il a dit plusieurs fois, qu'on est déjà dans l'époque de Mashiach. Mashiach n'est pas là. Mais Mashiach, c'est pas forcément quelque chose qui arrive en un instant. C'est vrai qu'il y a un instant qui va arriver dans lequel Beth Amigdash descend. Ça, c'est pas arrivé encore. Beth Amigdash descend, les morts ressuscitent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas arrivé encore. Mais il y a une époque qui prépare, Mashiach. Et on est en plein dedans. Ça, même celui qui veut pas le voir, il suffit d'ouvrir les yeux, tu vois clairement que le monde change.
Ça fait 2-3 000 ans qu'on parle de Mashiach.
Non.
Oui, mais depuis 5
000 ans. Le monde n'a jamais avancé vers Mashiach.
Oui, c'est
pas compliqué. Prends juste, regarde.
On est à l'iPhone 16 aujourd'hui.
Prends juste. Oui, l'iPhone 16, c'est bêtise.
C'est-à-dire qu'on a évolué.
Mais non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle.
On croyait déjà que Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu.
T'as tapé sur Google quand il arrive à
Mashiach. David, c'est pas de ça que je parle.
On est à l'iPhone 16, on parle toujours de Mashiach.
Ce que je parle, c'est que l'évolution du monde dans les 30 dernières années. Ce que le monde a évolué, même dans les 20 dernières années.
Oui, bon, bien sûr.
Le monde a évolué en 20 ans, ce qui n'avait pas évolué en 100 ans avant.
Oui, c'est évident. Et là, en 10 ans,
mais quoi,
il va évoluer.
Mais quoi, c'est évident? Mais comment c'est évident? C'est pas normal, ça.
Mais parce que c'est...
Oui, exactement. En 100 ans, on a évolué ce qu'on n'a pas évolué en 1000 ans. Tu peux poser des questions. Tu crois qu'on est plus intelligent que ceux qui ont vécu il y a 500 ans?
Non, les deux derniers siècles.
Ah, mais ça fait beaucoup de données.
Alors, comment ça se fait que nous, on évolue très rapidement? Qu'est-ce qui a changé?
Non, la technologie, elle a changé. La médecine a changé.
Mais pourquoi elle a changé tout d'un coup?
Il y a eu beaucoup de progrès par rapport à 50 ans en arrière.
Oui, mais c'est ce que je dis. C'est un signe, ça. Oui. Mais ça, c'est ce que je vous dis. C'est écrit dans le Zohar. On a fait un cours sur ça, ça fait 2 ans. On avait fait un cours sur ça dans le Zohar, il y a 2 ans. On avait expliqué que le Zohar dit la chose suivante. Il avait dit que, donc, les mots du Zohar, c'était comme ça. C'était, donc, au sixième centenaire du sixième millénaire, les portes de la sagesse céleste et la sagesse terrestre souriront. C'est le mot du Zohar.
Donc on est dedans, là.
Ça veut dire, non, ça veut dire en 5000, à partir de 5500. À partir de 5500. C'est le mot du Zohar. D'accord? Et on est en plein dedans. Vous prenez la révolution industrielle, vous prenez la révolution en médecine, vous prenez toute la notion des vaccins. Ah oui, vous savez, les vaccins. Vous savez quoi?
Qui c'est Mathieu? On ne le laisse pas
croiser. Quel dark.
Bonsoir.
C'est pas lui, non? De qui on parle depuis tout à l'heure?
On sait qui c'est.
D'accord? Donc prenez tout ça. C'est clair que quand on analyse tout ça, on voit qu'il y a un bouleversement, on voit qu'on avance.
C'est évident.
Excusez-moi, je ne suis pas complètement convaincu de votre analyse.
Pourquoi? Allez-y.
Bah parce que tout simplement, je crois qu'effectivement, vous avez raison sur un certain point, l'évolution de la médecine, les gens mangent de mieux en mieux, etc. Mais je crois que la pauvreté,
ils mangent de mieux en mieux, ils se recherchent de plus en plus.
Oui, sauf que...
On essaye d'être de plus en plus des gens bien.
La pauvreté, elle a changé de visage.
On se comporte de moins en moins comme les animaux. C'est une réalité, ça.
Mon analyse est la suivante, c'est que la pauvreté, elle a changé de visage aujourd'hui. C'est vrai qu'on était, on en voit de moins en moins des images d'Africains squelettiques. Ça existe encore, il y en a.
Ça existe, oui.
Mais aujourd'hui, ça s'est développé. Ça a pris de nouvelles formes. Vous allez en Amérique du Sud, vous avez une pauvreté extrême, les gens sont obligés de se prostituer. Les enfants, ils vivent sur des immondices pour gagner 3 dollars par jour.
C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire.
Non, vous
rendez pas compte. Pour fabriquer votre iPhone, il y a des gens qui crèvent pour sortir les minéraux, enfin, les matériaux pour fabriquer ça. Vous savez pas, la souffrance et les morts qu'il y a, sans parler de la destruction de la planète.
Ma chère n'est pas là, on a dit.
Ma chère n'est pas là, ça c'est clair.
Vous dites qu'on tend vers.
Non, ce que je dis, c'est qu'on est dans un développement qu'on voit clairement qu'il y a un développement.
On parle d'un état général.
Il y a un processus et on est en plein dedans. On le voit clairement.
Oui, mais je trouve que aujourd'hui la planète elle est en train de
s'effondrer. Il y a juste un truc en plus qui va dans ton sens, c'est que là il y avait un débat dernièrement, c'est tout sur la fusion entre Bayer qui rachète Monsanto pour tout ce qui est
la fusion de
Bayer qui rachète Monsanto pour toutes les semences. Tous ces progrès-là qui ont fait que finalement tu peux faire pousser, même en Afrique, des trucs qui résistent et autres. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on vaut mieux? Du truc transgénique et les gens en mangent, ou bien qui mangent et ils meurent de faim. Parce qu'on ne connaît pas les conséquences de tout ça à terme. Bon. Mais au moins, ils mangent des gens. Et toutes ces révolutions-là de ces labos, ils ont donné à manger. En Afrique, ils ont donné à manger.
Et s'il n'y avait pas eu d'évolution.
Et ces évolutions, ils n'auraient pas eu de quoi manger. Et on est d'accord. Et s'il n'y avait pas tout ça, ça va tout dans ce sens-là.
Alors on va continuer.
Juste que ce point-là, ça va complètement dans ce sens. Les gens mangent beaucoup mieux. Et tout. Après, bien sûr, il y a des gens qui se, comme tu dis, qui, mais ça ne change rien.
Même l'Inde et la Chine, il y avait des centaines de millions de gens qui mouraient de faim. Des centaines de millions, pas des millions, c'est des centaines. Et aujourd'hui, l'Inde vend du riz. Il y a nourri un peuple,
non voyant de voir.
C'est évident.
Et on avance. La proportion de la misère, non, la proportion de la misère par rapport à la planète, au volume des gens, elle a diminué.
C'est clair.
C'est ce qu'il est en train d'expliquer. C'est ce que j'ai compris dans ce qu'il a dit. Non, mais je...
Avant, il y avait...
Moi j'étais aux États-Unis, ça fait pas longtemps. Il y a un historien. Vous entendez? J'étais aux États-Unis, Jacques.
Il va marcher dans la rue, il n'y a pas d'obstacle.
Jacques, j'étais aux États-Unis, ça fait quelques mois. Il y avait un historien qui nous a fait une présentation, messieurs, si vous écoutez. Et il nous a montré, vous savez qu'aujourd'hui il y a des programmes informatiques avec des supercalculateurs qui font des statistiques sur une échelle mondiale. Les statistiques, ça veut dire pour permettre de prévoir certaines choses et pour essayer d'analyser, etc. Et il nous a montré plusieurs paramètres, que j'avais pris des notes, mais là je ne les ai pas devant moi, plusieurs paramètres pour montrer que très clairement, l'économie du monde, la pauvreté, enfin la richesse du monde, c'est en train d'avancer. Et il nous montre qu'il y a des courbes, ils ont des supercalculateurs qui sont capables d'analyser des données qui remontent à 300 à 400 ans. Et encore, ils vont aller de plus en plus loin. C'est des choses très 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 poussées. Et vous avez toute une présentation. C'est-à-dire, c'est clair qu'on avance. On avance. Alors, c'est vrai que quand on avance, il y a des couacs, c'est pas facile. Il y a des fois des moments difficiles, etc. Mais on avance. Alors, ça nous amène vers où? Ça nous amène vers le 7e millénaire. Puisque là, on est dans le 6e millénaire. On est en l'an 5776. On va rentrer en 5777. Donc, ça veut dire qu'on est déjà vers la fin du 6e millénaire. Le 7e millénaire, c'est le Shabbat. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, il y a 6 jours de travail et le 7e il se repose. De la même façon, c'est écrit qu'il y a 6 jours, ça veut dire 6 fois, chaque jour est considéré 1000 ans. Donc, il y a 6000 ans de travail et le 7e c'est le Shabbat. Seulement, et plusieurs paramètres. D'abord, le Shabbat, on peut le faire rentrer plus tôt.
C'est ça, c'est bon fait.
D'accord ? En plus, dès qu'il y a le crépuscule, déjà on fait rentrer le Shabbat. Quand vous faites les calculs, vous voyez qu'on y est presque là. Et on peut faire entrer le Shabbat plus tôt. C'est-à-dire que si on se conduit bien, Dieu dit bon, on fait entrer le Shabbat plus tôt. C'est ça en vérité. C'est avec ça qu'on joue maintenant. C'est à ça qu'on joue. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce 7e millénaire? Ce 7e millénaire. Ce 7e millénaire.
On va gagner 200 ans.
Amen.
On va rentrer le
fond. Une fois Mashiach il arrive. Alors il rencontre un Rosh Yeshiva. Il lui dit alors, il dit bonjour. Vous entendez Jacques l'histoire? Il y a un Rosh Yeshiva. Donc Mashiach il arrive, il va dans la rue, il rencontre un Rosh Yeshiva. Il dit voilà, bonjour, je suis Mashiach. Ah, Rosh Yeshiva lui dit ah, mais Baruch Haba, bienvenue. Il lui dit alors, dites-moi un petit Dvar Torah, je suis Mashiach. Allez, écoutez, vous savez, j'ai pas eu le temps de préparer. Bon, demain, je vous ferai un Dvar Torah, j'ai pas eu le temps de préparer, désolé. Bon, ok. Ma chère, il avance, qui rencontre? Il rencontre un Chabad. Il dit, ah! Sors-nous les Chaïm, on va dire les Chaïm, voilà, ma chère, il est venu enfin. Alors, il lui sort les Chaïm, il lui sort un fond de bouteille. Il lui dit, dis-moi, je suis ma chère, tu sors un fond de bouteille, c'est quoi ça? Il dit, depuis le temps qu'on t'attend, la bouteille, on l'a fini.
On l'a attaqué, c'est
bon. Bon, c'est pour dire qu'on a la Emouna et qu'on attend. Alors, je parlais du 7e millénaire. Qu'est-ce qui se passe au 7e millénaire? Le 7e millénaire, ce qu'on appelle le Elef HVI, le jour du Shabbat, donc ça veut dire le jour qui correspond au Shabbat, donc le jour du repos. Ça, c'est un moment dans lequel la Gemara a dit Chat Charouv. Elle dit que c'est un moment dans lequel le monde sera détruit. Mais, c'est là qu'arrive le commentaire du Zohar. Le Zohar, il dit, il ne faut pas comprendre forcément au sens littéral que le monde sera détruit. Parce que si on dit que le monde sera détruit, ça veut dire qu'on quitte la matérialité. Le Zohar dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. En tout cas, Narpanid explique comme ça. Il dit, ça veut dire quoi que le monde sera détruit? C'est que la matérialité du monde telle qu'on la connaît, ça sera détruit. C'est-à-dire que le monde actuel, il sera là, tout sera là. Il n'y a pas besoin de détruire les montagnes, détruire tout, tout sera là. Mais l'aspect matériel de ce monde-ci, ça disparaît. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'il s'expliquait en Chassidoud. Il est écrit que Mashiach, il va venir, il va chevaucher sur un âne. On connaît tous l'image. Il va chevaucher sur un âne. Donc nous on s'imagine, ma chère, il doit venir sur un âne. Et si... Maintenant, trouvez-moi un âne ici, là où tu veux qu'il trouve un âne.
Il y en a beaucoup.
D'accord.
Bon. C'est celui qui dit qu'il y est.
Non, mais c'est-à-dire quoi?
Il y en a beaucoup même.
Alors, en plus, on dit un pauvre qui chevauche sur un âne. C'est-à-dire maintenant, tu vois, il y a des avions et des voitures, etc. Attendez, il faut un âne.
Et blanc, de surcroît. Pourquoi?
Blanc, blanc,
ah, non, j'ai
blanc,
pas dit blanc.
Non, c'est le cheval d'Henri IV qui est blanc.
Non.
Alors en fait, le Maharal de Prague, il dit comme ça. Le Maharal de Prague, il dit, il faut pas comprendre forcément au sens littéral. Quand on dit qu'il est pauvre et qu'il chevauche sur un âne, c'est pas forcément qu'il est pauvre et qu'il chevauche sur un âne. Pauvre, en hébreu, ça symbolise l'humilité. Comme dans le psaume 90, Tefila l'Erani. Le pauvre, c'est quelqu'un qui est humble. Donc déjà, Mashiach, c'est quelqu'un qui a l'humilité. Deuxièmement, on dit que le Mashiach, il est pauvre, donc c'est-à-dire qu'il est humble et qu'il chevauche sur le Chamor. Il chevauche sur l'âne. Chamor, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Chomer, la matière. Il chevauche sur la matière. Il est au-delà de la matière. Vous voyez comment ce que vous voulez tout à l'heure avec le Rambam, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit à propos de Mashiach, il faut jamais comprendre, il faut jamais dire ça va se passer comme ça. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui sera au sens littéral, on ne sait pas ce qui sera au sens allusif, et allégorique, etc. Par exemple, lorsqu'il est écrit « Le loup cohabitera avec l'agneau », ça m'a mené des dits. Est-ce que vous pensez que quand Mashiach revient, il faut vraiment qu'il y ait un loup qui cohabite avec l'agneau? Peut-être oui, peut-être non. Le loup qui cohabite avec l'agneau, ça peut vouloir dire aussi « Le loup, c'est les nations ». L'agneau, c'est nous, d'accord? Le loup qui cohabite avec l'agneau, c'est Israël qui cohabite avec l'agneau sans problème. Ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est les images, tout ça. Ok. Donc, on parle du septième millénaire. Le septième millénaire, on a expliqué, c'est pas un septième millénaire dans lequel il n'y a plus de monde. Pourquoi? Est-ce que le Shabbat, il n'y a plus de monde? Pendant six jours, on travaille. Le septième jour, le monde est toujours là. Mais c'est une nouvelle réalité. Exactement comme dans notre semaine. Dans ma semaine, qu'est-ce qui se passe? Pendant six jours, je regarde le monde autour de moi d'une certaine façon. Quand arrive le Shabbat, je le regarde avec d'autres lunettes. Le même monde, je le regarde avec d'autres lunettes. Ma maison, je le regarde avec d'autres lunettes. Mes escaliers, mon palier, la route qui est devant chez moi, c'est des autres lunettes. Pourtant, c'est la même route.
La
porte d'entrée. D'accord? Non, mais c'est la même route. C'est la même route. C'est la même réalité. C'est la même réalité, mais ça prend une autre forme. C'est une image. De la même façon, quand je parle de Mashiach, on te dit, ne t'attends pas que Mashiach va venir, Dieu, il va tout casser, il va tout détruire. C'est une autre réalité. C'est une autre dimension. C'est la même chose. Le monde, il va rester. Mais il n'y aura plus l'aspect matériel. On va rentrer dans une dimension spirituelle. Alors, en fait, le Rabbi Rachad explique ça, puisque cette semaine, c'est Chayeloul, c'est la semaine de la naissance du Baal Shem Tov, de Morazaken, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça. On ramène un mot dans Torah Or. Il dit comme ça. Il dit que, de nos jours, il y a trois types d'énergie. Il y a une énergie positive, une énergie négative et une énergie neutre. L'énergie positive, c'est les mitzvot. Quand je fais une mitzvah, je dégage une énergie positive. L'énergie négative, c'est les averot. D'accord? Ça, c'est les shalosh klipot. Quand je fais une avera, je dégage une énergie négative. L'énergie neutre, c'est tout le reste. Ce qui est ni mitzvah, ni avera. Bon, voilà, une bouteille d'eau. C'est quoi ça? Ni mitzvah, ni avera. C'est une énergie neutre. Alors, de nos jours, l'énergie neutre, elle est neutre. Elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche, elle peut aller dans le positif, dans le négatif. Mais lorsque ma chère va venir, il n'y aura plus d'énergie neutre. Tout sera dans le domaine du positif. Je sais pas si vous aimez, ça veut dire que tout, y a rien qui sort dans le domaine du négatif. Donc c'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'obstacles. Vous savez, le nombre de temps qu'on passe à essayer de surmonter des obstacles. Imaginez que comme Mashiach il arrive, on passe plus notre temps à surmonter des obstacles. On passe notre temps à avancer. C'est aucun rapport. C'est une fusée. Comme une fusée, tu vois la fusée, tant que tu l'arrêtes pas, elle avance. Il n'y a pas de raison. Pourquoi tu veux qu'elle s'arrête? Tu l'arrêtes pas, elle s'arrête pas. Nous, on est là maintenant, la majorité de notre temps, 99% de notre temps, on est là en train de régler des problèmes et essayer de se battre avec ça, avec le Yitzhara, avec ci, avec ça. Il n'y a plus ça. C'est le top. Mais attention, à quel moment on procure le plus de plaisir à Hachem? C'est maintenant. Quand on arrive à vaincre le Yitzhara. Mais en récompense de ces efforts et ces victoires que nous on a fait, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous amène la vie éternelle dans laquelle il n'y a plus d'efforts. On peut toujours faire des efforts après. Mais on va dire, c'est les efforts, il y a le bien et il y a le mieux que bien. C'est-à-dire que la seule marge d'effort, la seule façon de noter qu'il y aura comme un charré, parce qu'il y aura encore des différences, c'est écrit que la seule différence, c'est est-ce que tu as fait bien ou très bien, c'est tout. Alors, Maïmonide donne une image. Il dit que lorsque Mashiach va venir, la sagesse couvrera le monde comme les eaux recouvrent les océans. Bon, maintenant, quand vous allez à la mer, c'est plat. D'accord, la mer, ça veut dire, tu vois, une surface plate, comme la Terre. Mais ceux qui font la plongée sous-marine, et même sans, on sait très bien que même si la mer a l'air plate, mais quand tu descends en bas, tu sais qu'en bas, il y a des endroits assez hauts, des endroits assez bas, etc. Enfin, c'est un monde. Alors, il dit, c'est la même chose. Il dit, lorsque ma chère va venir, toute la Terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Mais il y aura après des niveaux. Il y aura des gens qui seront plus hauts, plus bas. Mais la question ne sera pas est-ce qu'on fait ou on ne fait pas. La question sera seulement comment on fait. C'est une autre réalité. C'est pas est-ce que je fais ou est-ce que je fais pas. C'est pas est-ce que j'ai envie de faire ou j'ai pas envie de faire. C'est est-ce que j'ai fait très bien où j'ai pas fait très bien, j'aurais pu mieux faire. C'est tout. Mais c'est ça la marge. Donc on comprend que c'est une réalité qui est complètement différente. On est toujours dans le monde. On est toujours dans le monde physique, mais toujours avec les neshamot dans le corps. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la finalité. Que toutes les neshamot vont redescendre dans le corps. Mais on va arriver au vrai repos. C'est quoi le vrai repos? C'est quand il y a plus d'obstacles.
Mais non, il n'en demeure pas moins qu'il y aura tout le temps une compétitivité.
Ça, oui, ça restera. Mais une bonne compétitivité.
D'après ce que vous venez de dire.
Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Vous savez que la Torah encourage la compétitivité. Il y a même des textes qui encouragent un maître à encourager la compétitivité parmi ses élèves. C'est une bonne compétitivité. Non, mais c'est très bien, c'est bien ça. C'est bien. Seulement le problème, c'est quoi? C'est comme on vit dans un monde aujourd'hui dans lequel compétitivité devient synonyme de jalousie. Là, dès qu'on vire à la jalousie, là, ça fait des catastrophes. Parce que quand tu vois que tu n'arrives pas à faire ce que l'autre il arrive, alors soit tu es en mode compétitif, compétition, donc tu dis bon, ben, il m'a dépassé, mais moi aussi je vais le dépasser. Bah, là, c'est bien. Mais si tu arrives, tu vires dans la jalousie, il m'a dépassé, je vais l'écraser comme ça, il me dépasse plus. Là, c'est la catastrophe. Et malheureusement, on bifurque à la jalousie. Parce qu'au début, compétitif, mais après, voilà, après la jalousie. Mais quand ma chère arrive, ma Rambam, il dit, il y aura plus de jalousie, il n'y a pas de jalousie. Il n'y aura plus de compétition négative. Il n'y aura que, on voudra avancer. C'est une compétition positive. On veut avancer, on veut se dépasser. Donc ça, c'est la particularité. C'est la particularité quand tu rends ma chère. On n'a pas beaucoup fait sur texte. On n'a même pas du tout fait sur texte aujourd'hui. C'est pas grave. Mais c'est important pour moi de traiter ce sujet. Je voudrais parler encore de deux, trois choses. Une autre chose aussi que j'entends souvent des gens, puisqu'on a parlé de Mashiach, c'est que il est écrit que lorsque Mashiach va venir, Torah Chadasha Meidit Etse, c'est écrit dans Isaïe, une nouvelle Torah sortira de moi. Donc sur ça sont basés les autres pour dire ben voilà, il y avait l'ancien et nous on a amené le nouveau. Bon voilà, pour ne pas le dire.
Mais sortira de moi qui?
Alors sur quoi ils sont basés? Sur quoi ils sont basés? Ben, ils sont basés sur un texte d'Isaïe. C'est Isaïe qui dit ça. Isaïe dit Torah Chadasha Meidit Etse, une nouvelle Torah sortira de moi.
De moi, Isaïe.
Oui, non, de moi, Dieu. Ah, Isaïe, c'est le prophète qui annonce la parole de Dieu.
Ah, d'accord.
Donc, une nouvelle Torah sortira de moi. Donc voilà, ils ont dit, il n'y a pas de problème, Moïse, c'est vrai tout ce qu'il a dit. Mais il y avait un ancien, nous c'est le nouveau. Seulement, quelle est l'erreur qu'ils font? L'erreur qu'ils font, c'est que la Torah est Torah d'Emet, c'est une Torah de vérité. Or, tout ce qui est vrai est immuable. Parce que si c'est vrai il y a 2000 ans, et c'est pas vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a 2000 ans aussi, c'était pas vrai. Quelque chose de vrai et quelque chose qui est vrai maintenant et même dans 10 000 ans. C'est la vérité, ça bouge pas.
Donc quand tu parles du nouveau...
Alors comment on parle du nouveau? Comment ça peut être une nouvelle Torah? C'est pas possible une nouvelle Torah. Les commentaires disent quelque chose de très simple, ils disent pas du tout. Ils ont mal compris. C'est pas ça Torah Chadasha. C'est pas une nouvelle Torah.
Nouveaux enseignements.
C'est que les enseignements seront tellement extraordinaires qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah. Imagine, tu prends un livre, tu l'as lu 15 fois, 50 fois, 10 000 fois, il y a un maître qui vient, qui t'apprend une nouvelle façon de le lire. Tu dis, mais c'est un nouveau livre. Mais c'est pas un nouveau livre, il était déjà là le livre. On t'a pas donné un nouveau livre, c'est le même.
T'as pas tout décortiqué.
Mais c'est un nouveau livre dans le sens, on l'a donné une nouvelle façon de le voir.
Ça veut dire qu'on donnera une nouvelle interprétation au texte.
On aura une autre vision, bien sûr. On aura une autre vision.
On dit pas que la Torah elle a 70 livres.
Il t'a donné une clé pour décrypter.
Alors pareil aussi quand on parle de mitzvot. Aujourd'hui on a 613 mitzvot. Lorsque Moshe va venir, d'accord. Alors il y aura toujours des mitzvot, mais ça sera pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait des mitzvot, c'est un ordre que Dieu donne à une personne qui n'a pas envie de les faire. D'accord? Ça veut dire que on donne un ordre à quelqu'un qui naturellement n'a pas envie de les faire. On lui dit fais-les quand même. Lorsque Mashiach arrive, c'est différent. Les mitzvot, c'est comme un mode d'emploi. T'as envie de suivre. Donc il y a toujours des mitzvot, mais il n'y a plus l'aspect contrainte. Ça veut dire que tout change, tout l'aspect contrainte, challenge, bagarre, bataille. Là, il n'y a plus tout ça. Mais il y aura toujours la Torah, il y aura toujours les mitzvot, qui prendront naturellement une dimension complètement nouvelle. D'accord? Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, il faut comprendre que tout ce que je viens de vous dire, ça s'est passé au don de la Torah. Tout ce que je viens de vous dire, tous les phénomènes que je viens de vous dire, résurrection des morts, etc., résurrection des morts, le voir que la spiritualité, pas la matérialité, et comme on a expliqué, ça veut dire que sentir une nouvelle vision de la Torah, sentir que les mitzvot, c'est pas une contrainte, mais c'est un plaisir de les faire. Tout ça, les Bnei Israël l'ont vécu au moment du don de la Torah. Ils ont vécu tout ça. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Leur corps n'était pas prêt. Leur corps ne suivait pas. C'est-à-dire, leur neshama, elle a vécu tout ça. Dieu a fait sentir tout ça à la neshama. Mais, leur corps n'était pas prêt. Ça, quand on dit qu'ils voyaient ce qu'ils entendaient et ils entendaient ce qu'ils se voyaient, ça veut dire que on dit que les Bnei Israël, quand Dieu l'a donné la Torah, partout où ils poussaient leurs oreilles et leurs yeux, ils entendaient une voix qui disait je suis l'Éternel ton Dieu. Ça rend fou, ça. Tu regardes à droite, tu entends à droite, hop, il y a une voix qui vient. À une droite, hop, il y a une voix qui vient. Hop, il y a une voix qui vient. Tu dis, mais d'où elle vient la voix? Eh ben, partout où tu t'entends, la voix, elle vient de là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit dans le monde dans lequel on peut dire la voix d'Akadosh Baruch Hu ne vient pas de là-bas. Et c'est exactement comme ça que ce sera quand tu auras Mashiach. Imaginez si tout ce qu'il y a autour de nous, c'est la clarté, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est le recette, c'est la bonté, sans intérêt. On avance vers ça. Il faut le dire clairement, on avance vers ça. Vous n'avez pas idée aujourd'hui le nombre de... Il y a encore de la corruption dans la politique, etc. On a encore tout ça. Mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est les années-lumière. Mais à l'époque des rois, mais c'est pas ce que c'est l'époque... C'est ce que c'est l'époque des rois. Mais le roi, il fait ce qu'il veut. Il tue tout le monde, il crée ce qu'il veut, il fait tout le monde. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le roi. Tu sais le nombre de... Pourquoi on n'aime pas les rois? Parce que les rois, ils ont fait des catastrophes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on avance. On avance vers le bien. Il n'y a pas encore le bien absolu, il y a encore des intérêts, ça c'est vrai, mais on avance. Et il faut savoir remercier Hachem pour ça, c'est important de remercier Hachem pour ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, quelqu'un il est malade, il va à l'hôpital. Et en général, on guérit ce qu'il a. Dans la majorité des cas, on guérit ce qu'il a. Ça, il n'y avait pas. Avant, les gens, ils pouvaient mourir d'un rhume.
Deux, trois trucs,
Je suis sérieux. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens, ils mouraient d'un rhume. Hein? Ça veut dire, imaginez cette année. Voilà. Qui n'a pas été enrhumé cette année? Bah, imaginez qu'à l'époque, il y avait des gens qui mouraient d'un rhume. Voilà.
D'un rhume, bien sûr.
Bah, un rhume qui n'est pas traité, ça peut être fatal.
Parce que c'était avant, on disait celui qui s'ennuie, il mourrait.
C'est quoi, Taïch? Comment
ça? Tu vis.
Voilà. Voilà. Non, mais. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que la matérialité, donc comme on l'a dit, la matérialité du monde n'était pas prête. D'accord? Maintenant, notre travail, c'est de raffiner la matière. C'est-à-dire, chaque fois qu'on va faire des mitzvot, chaque fois qu'on va prendre un petit peu de matière et qu'on va la ramener vers un Kadosh Baruch Hu, je vais travailler, je vais prendre une voiture, une maison, un aliment, tout ce que je vais faire, que je vais ramener vers un Kadosh Baruch Hu, progressivement, on raffine la matière. Et chaque chose, c'est des petites victoires. Je raffine à chaque fois la matière vers un Kadosh Baruch Hu. Et là, lorsque Kadosh Baruch Hu aura décidé, ce sera le moment dans lequel il aura eu son quota, et là, il enverra ma chair. C'est tout. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas être défaitiste. On entend les gens parler, des fois ils disent « Oui, mais tu comprends, avec les temps qui courent, on est dans un monde comme ça, comment tu crois que Mashiach va venir ?» On avance à Mashiach, c'est clair ça. Il faut ouvrir les yeux. Le Rabbi disait une des phrases que le Rabbi répétait le plus les dernières années, il disait « Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. » On est tellement égoïste, on est tellement dans notre monde, que moi je dis « Oui, c'est des galères, ça manque des galères. » Oublie-toi. Élargis tes horizons. Analyse le monde. Dès que tu analyses, tout de suite, compare ce qu'il y avait... Il y a maintenant, il y a 100 ans, il y a 200 ans, 300 ans, tout de suite tu vas voir. Tu dis, tiens, on avance.
Il n'y a pas une parabole comme ça avec des gosses qui sont nés dans un peuple qui s'est perdu dans une montagne. Il y a eu une histoire comme ça une fois. Et des gosses qui.
Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse.
Allez-y. Alors bon, parce que là, on approche là. Alors je vous donne juste le preview. Ce qu'on fera la semaine prochaine. Donc. La semaine prochaine, bon, on n'a pas fait du tout sur texte hein, aujourd'hui, mais on a fait surtout à l'oral. En fait, le cours d'aujourd'hui, c'est une introduction. Comme on a parlé de Mashiach, alors j'ai fait tout un cours sur Mashiach. C'est une introduction à ce qu'on verra la semaine prochaine.
Tu fais un selfie.
Et Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, on va s'arrêter sur plusieurs questions. Toujours sur Mashiach. Ça, je vous encourage à revenir la semaine prochaine. Plusieurs points. D'abord, on va expliquer... Pourquoi, en quoi on va être mieux lorsque ma chère va venir qu'au nom de la Torah? C'est-à-dire, si au nom de la Torah on n'a pas tenu, en quoi nous aujourd'hui on va tenir? Vous pensez vraiment qu'on est plus raffiné qu'eux? D'accord? Deuxième question. Quel est le rôle des nations dans tout ça? Ça veut dire, est-ce que c'est simplement un plan pour juifs en tant que juifs et qu'on n'a pas à s'occuper des nations, les nations ils se débrouilleront? Ou bien, est-ce que moi en tant que juif, je dois m'occuper à rendre le monde meilleur pour les nations aussi? Ça c'est complètement une autre paire de manches. Donc les 7 mitzvot de Noir, être un juif exemplaire pour les goyim aussi, etc. Ça, on va développer ça la semaine prochaine aussi. D'accord? Et Be'ezrat Hashem, avec ça, on comprendra comment notre monde est un monde dans lequel on avance vers Mashiach. Vous savez, comment on dit en hébreu l'exil? L'exil. Gola, c'est l'exil. D'accord? Vous prenez maintenant Gola, vous rajoutez un Aleph. Ça nous donne Geoula. Ça veut dire quoi? Geoula, c'est la libération, c'est la délivrance. C'est-à-dire, c'est les mêmes lettres. C'est la même chose. J'ai rajouté un Aleph. C'est quoi le Aleph? Le Aleph, c'est la lumière. C'est-à-dire que là, maintenant, la lumière est éteinte. On voit rien. Lorsque Mashiach va venir, il n'a pas besoin de tout changer, de tout casser, de tout enlever le monde. Il va allumer la lumière. Imaginez, t'es dans une pièce obscure. T'as avec des galères. Ça veut dire que tu tombes partout. Tu dis, mais c'est quoi ces trucs-là, etc. On t'a lumière, tu dis, ah.
Ça va effacer 3 mais attends, ans de
mais
souffrance.
Mais ça, c'est un, ça date de Louis XIV, ça.
Comment ça se passe?
Tu vois, mais quand la lumière était éteinte, c'était pas un Louis XIV, hein. Quand la lumière était éteinte, tu voulais le, il cassait les pieds. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, tout est un problème. Quand Mashiach, il arrive, Aleph, il a eu la lumière. Lorsqu'il a eu la lumière, il éclaire la réalité dans laquelle on se trouve. Donc on est en vérité en train de construire la réalité messianique. C'est dans cette réalité que Mashiach va venir. Mais lorsqu'il va venir, il va allumer la lumière.
Allez. Je crois que Rabbi Levi disait que Gola aussi, ça veut dire la France. Et ça qu'on dit que Mashiach va dans la France. Enfin, on ne sait pas que ça veut dire quoi. C'est une
image. Je ne viendra pas en Orly et pas par l'Orly.
La Gola.
La Gola. Qui vient, après on verra.
La Gola. La Gola.
Oui.
Je jouais une petite aparté. Est-ce qu'il y a une accointance entre la vie de Mashiach et cette fameuse histoire de Gog et Magog? Est-ce que...
Gog et Magog, c'est pas clair.
Ces deux concepts se rejoignent.
Alors, je vais vous expliquer. Je vais répondre à la question. Et deux points. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux options comment Mashiach va arriver. Comment Mashiach peut arriver. Première option, c'est si on est méritant. Deuxième option, si on n'est pas méritant. Si on est méritant, dans ce cas-là, Mashiach arrive sans guerre. Si on n'est pas méritant, dans ce cas-là, Mashiach arrive au travers d'une fameuse guerre qui s'appelle la guerre de Gog et Magog.
D'accord.
Gog et Magog, on ne sait pas exactement ce que c'est. Apparemment, c'est deux superpuissances qui vont se battre. Alors, il y a deux points. D'abord, il y a beaucoup de rabbinim, dont le rabbi, dont beaucoup de rabbinim, de la majorité, qui disent que Gog et Magog, a priori, c'était la Shoah. Parce que ça correspond à 100%. Hein, ça veut dire le phénomène que les monts, qu'il y a des pays qui s'affrontent et qu'Israël est pile au milieu, etc. Ça correspond à la Shoah, peut-être aussi à la guerre du Golfe. Parce que la guerre du Golfe, mais surtout à la Shoah. Premièrement. Deuxièmement, la majorité des avis s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, on est dans l'option méritant, pas dans l'option pas méritant. Ah bon. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai qu'on peut faire des fautes, mais aujourd'hui, on est comme des nains sur un géant. T'as un nain qui monte sur un... Lui, c'est un nain, mais comme il monte sur un géant, les géants, c'est toutes les générations d'avant, tous ceux qui ont donné leur vie, etc. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est montés sur cette génération. Toutes les générations de la Shoah, la génération d'avant, etc. Les générations des gens extraordinaires. Donc, on est des nains sur des géants. Donc, on est méritant. Donc, puisqu'on est méritant, il faut pas que les gens ont peur de Mashiach parce que il y a l'appréhension de l'inconnu d'abord, mais il y a aussi parce qu'on se dit comme Mashiach va venir, la guerre. Il y aura pas forcément de guerre. C'est pas forcément la guerre. C'est pas du tout.
Il y a eu 6 millions de morts.
Quoi?
Non,
mais tu as raison. Voilà. Et s'il devait y avoir la guerre, j'ai passé par là. Il n'y a pas forcément de guerre. Non, les gens ont peur parce qu'on a l'appréhension de l'inconnu. Non, mais c'est un concept connu en psychologie. L'appréhension de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Faut pas avoir peur. Quand Mashiach arrivera, tout ira bien.
On n'a pas peur.
Voilà. Non, mais les gens disent, écoute, mais est-ce que j'aurai mon travail? Est-ce que j'aurai ma maison? Est-ce que j'aurai ma piscine? Est-ce que j'aurai mes vacances? Est-ce que j'aurai mon truc? Et attends, on va pas être bousculé. C'est comme, connaissez l'histoire. Une fois, il y a un rabbin, c'était avant Rosh Hashanah comme ça, il a parlé à la synagogue, il a dit, vous savez, Mashiach va venir, et bientôt, il va nous amener à Yerushalayim, au Beit HaMikdash. Il y avait un petit paysan, tout gentil à la synagogue. Et lui, bon, il a entendu Jérusalem, etc. Il habite en Pologne. Alors il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, il lui dit, écoute, tu sais, le rabbin, il a dit, il y a un problème. On va tous partir à Jérusalem. Mais comment on va faire? Comment on va faire avec la vache? Comment on va faire avec la maison? Comment on va faire avec les tables? Comment on va faire? Et sa femme, elle lui répond, elle lui dit, t'inquiète pas, le même Dieu qui nous sauve tous nos problèmes, il nous sauvera de ce Mashiach aussi. C'est l'ignorance. Non, mais sérieusement, faut pas avoir peur. Au contraire, quand Mashiach va venir, la vie ne peut être que mieux. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un il tombe malade. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben c'est comme ça. Il meurt. Ah ben c'est comme ça. Alors bien sûr qu'on n'est pas content, ça nous fait de la peine, on va prier, on va pleurer, on va faire les teilim. Mais au final, on accepte parce que pour nous c'est normal. Pourquoi c'est normal?
On va pas se révolter contre.
J'ai compris, mais il faut comprendre que c'est pas normal ça.
Mais c'est pas normal ou non, normal.
Il faut comprendre que c'est pas normal qu'une personne tombe malade. C'est pas normal qu'il meure. Pourquoi il meurt déjà? Pourquoi il meurt? Pourquoi il existe une notion de mortalité? Pourquoi une personne qui a construit, qui a fait des mitzvot, il arrive à la fin, il meurt?
C'est comme ça, c'est la vie.
Il mérite pas ça. Seulement, nous, on grandit comme ça, donc on est né comme ça. Et il faut comprendre que lorsque Mashiach va venir, tous ces postulats, ils vont sauter. Pourquoi tu veux qu'il meure? Pas de raison qu'il meure. Il reste en vie. Pourquoi tu veux qu'ils tombent malades? Ils tombent pas malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on est dans un mode galoutique, tu vois, on s'est habitué au problème. Et c'est pour ça, la vérité, quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait beaucoup de rabbins qui parlaient de ça aussi. Ils disaient qu'il faut des fois, de temps en temps, essayer de faire travailler son imagination et d'essayer de s'imaginer de quoi aura l'air le monde quand Mashiach arrivera. Après, intéressant, ça.
Moi, j'ai une idée.
C'est-à-dire, chaque chose que tu vois autour de toi, tu vois, les magasins, les hôpitaux, les centres commerciaux, etc. Essaye de t'imaginer, par rapport au texte, de quoi ça aura l'air quand Mashiach arrivera. C'est intéressant.
Non, mais
c'est
intéressant. Ça ne sera pas gratuit, contrairement à ce qu'on peut croire.
Oui, mais on te payera. Tous les 12 heures seront disponibles comme la poussière. Donc on te payera avec des pièces d'or.
Il n'y aura plus de monnaie.
Avec des pièces d'or.
La résurrection des morts. La résurrection des morts.
Oui.
Non, les Goïms, c'est moi qui vais
te dire. Les non, ils ne sont pas concernés.
Ils ne sont pas concernés.
Non, non, que les Juifs.
La première pizzeria au Beth
Amikdash. À méditer.
Donc c'est fameux. Il faut revenir à.
Non, réfléchis. Si vous avez des questions encore, hein, la semaine prochaine, parce qu'on va continuer la semaine prochaine. On va terminer le chapitre la semaine prochaine.
C'est fameux de dire au Magog, soit c'est derrière nous, soit c'est optionnel.
Il n'y a pas de chaîne.
Soit on est dans l'option méritant, donc c'est fini. On n'est pas concerné.
Il
n'y
a pas de
bon, voilà, rabotage sur ces belles paroles, on va s'arrêter.